Salut tout le monde, épisode numéro 29, non 28, hey, je viens de dire 28 Stéphane, puis on est tout mêlé. C'est
le blooper de Martin.
Pour ceux qui se demandent pourquoi je dis 29, c'est parce que j'étais pas sûr et j'ai écrit 29 au début, mais non, c'était bel et bien 28. Mais bref, l'important, c'est qu'on est de retour Stéphane pour une nouvelle saison de la LNH. Là, il y a des tournois là, de recrues qui sont en cours présentement, d'ailleurs le Canadien joue contre les Devils présentement, et si je ne me trompe pas, c'était 3-2 aux dernières nouvelles. Mais Stéphane, on ne peut pas débuter une saison de hockey sans faire de prédictions. Donc, les quatre prochaines semaines, ça va être ce qu'on a fait comme l'an dernier. On va aller de division en division, faire nos prédictions de classement et tout ça. Et ce soir, on commence avec la division Pacifique. Je te demandais, avant qu'on commence en live, si tu as eu de la misère à classer les équipes. Tu m'as répondu non. Moi non plus, honnêtement. On dirait que tout tombe en place dans cette division-là. Et évidemment, on peut se planter royalement aussi.
On apprend à penser.
Effectivement. Mais à première vue, ça semble quand même se placer là, comme il faut, là, assez facilement. Stéphane, on va y aller. Comme d'habitude, là, on va y aller chacun position par position avec notre prédiction chacun. Je vais te laisser aller avec ton numéro 8 en partant du côté de la Pacifique. Vas-y, Stéphane, t'écoute.
Écoute, numéro 8, San José, les Sharks. J'ai mis les Sharks dernier pour deux choses. Je trouve qu'on n'a pas amélioré l'équipe tant que ça. On a cherché Luke Cunning, on a cherché Steven Lawrence, Evgeny Shnesnikov, qui est quand même un bon. Quand on allait chercher Aaron Dell comme goaler, puis on a Alex Chmielewski qu'on a signé il n'y a pas très long. Donc, je trouve juste que c'est on a complètement wipé ce qui était le coaching staff à San José cette année. On a David Quinn maintenant qui va être là pour s'occuper des entraîneurs cette année. Donc, je pense que c'est une équipe qui a du talent, mais je pense qu'ils n'ont pas d'affinité ensemble. On l'a vu les dernières saisons, mais je pense que l'avenir est bon quand même pour cette équipe-là. Évidemment, ils ont fait un nouveau changement de chandail. Je pense pas que ça va faire un changement de talent dans cette équipe-là pour l'instant. Mais écoute, tout va dépendre des joueurs clés. Là, les Couture, les Hurtle, les Bonino qui vieillissent. Moi, je trouve quand même que c'est une équipe qui est vieillissante. Il y en a quand même beaucoup de jeunes qui vont pousser vers en bas. Mais je pense que même si Vesnikov est rentré là cette année, je pense pas que ça va être plus le game changer de cette équipe-là. Donc moi, je pense qu'on n'aura pas assez. Mais ça va être quand même serré dans cette division-là. Donc je pense pas qu'ils vont finir comme l'année passée à la queue. Exemple, 25 ou 24 victoires. Mais je pense que ça va être malheureusement les derniers dans cette division-là.
Mon numéro 8, moi, j'ai mis le Kraken de Seattle. Parce que, en même temps, je ne vais pas te voler mon punch, là, mais moi, San Jose, je les ai mis 7e. Je les ai mis juste au-dessus.
Bien, correct.
La seule raison pour laquelle j'ai mis San Jose en avant de Seattle, c'est que du côté de San Jose, on a quand même des joueurs de talent élite dans cette équipe-là avec les Couture, les Meyer, les Hurtle, Carlson à la ligne bleue, même si ce n'est plus le Carlson dans le bon vieux temps. C'est quand même un défenseur mobile, c'est un bon défenseur. Du côté du Kraken, je trouve que ça manque encore une fois de firepower dans cette équipe-là. T'sais, l'an passé, le meilleur joueur a eu 50 points. Et cette année, on a ajouté des gars comme Burakovsky, on a ajouté Bjorkstrand. Mais ceux qui pensent que Burakovsky va être capable de répéter sa saison 61 points de l'an dernier avec le Kraken peuvent se mettre un doigt dans l'œil parce qu'il joue avec une équipe boostée avec l'Avalanche Colorado. Je serais énormément surpris qu'il fasse encore 60 points cette année avec le Kraken. Puis je pense pas que c'est des gars comme Shane Wright qui va vraiment changer de quoi s'il commence la saison cette année. Je pense qu'il faut prendre notre temps avec les jeunes. Il y a Ben Years là, qui va débuter probablement la saison avec le Kraken. C'est peut-être le joueur le plus excitant à voir aller là, du côté de Seattle. Mais je pense que, comme j'ai mentionné, ça manque de firepower à l'attaque. En défensive, c'est assez suspect. Puis devant le filet, on a deux gardiens qui avaient très bien paru avec leur ancienne équipe puis qui ont été exposés carrément l'an dernier avec Seattle parce que justement, on n'a pas de défensive de qualité là. Fait que non, du côté du Kraken, je pense que c'est la deuxième année. Donc, on n'a pas emprunté le même chemin que les Golden Knights qui, eux, se sont pactés un club en partant. Eux, c'est plus la méthode, on va y aller avec les jeunes et tout ça. Je pense qu'ils vont ramasser encore une fois un très haut choix au repêchage cette année. Puis on va être en mesure de bâtir avec ça.
Écoute, on se mentira pas, moi je les avais 7e, donc on a inversé 7 et 8, ça arrive souvent qu'on fait ça. Écoute, la raison première pourquoi moi je les ai mis 7e, c'est super facile, je pense que le Kraken a fait un bon repêchage depuis 2 ans. Comme tu dis, on a Bernier qui va commencer cette année probablement. On a aussi des joueurs qui poussent par en bas. On n'a pas été chercher vraiment de gros talents, mais on a cherché beaucoup de joueurs. John Hayden, Carson Tworski, on a cherché Ovid Bokstad, Daniel Sprong, on a Michael Kepney, Connor Carrick. On a Martin Jones aussi, là, de Flagolard, puis on a Morgan Geeky aussi. Donc, moi, je pense que la seule place pourquoi je les mets en avant, c'est à cause des gardiens de but. Moi, je pense que, honnêtement, ils ont probablement un des bons trios. Je dis bien trio parce que, derrière moi, les trois vont grouler cette année. On a quand même beaucoup d'expérience avec Grubauer et Jones. Puis on a Dryder aussi qui s'en vient là-dedans. Donc, moi, je voyais Kraken peut-être un petit peu en avant. Je trouve que l'ascension va probablement être un petit peu plus rapide du côté de Seattle. Puis comme tu dis, on n'a aucune idée si... voyons comment ça s'appelle le choix de la quatrième année passée, tu l'as dit tantôt.
Shane Wright,
excuse-moi. Je ne sais pas si Shane Wright va jouer.
On en a tellement parlé dans la dernière saison,
Stéphane.
Comment tu peux l'oublier?
Écoute-moi, c'était juste fureur. Non, c'est une farce. Donc, moi, je pense qu'on a un meilleur trio, premier trio de ce côté-là, que ce que malheureusement les San Jose vont avoir. Là.
Écoute, on va pas passer énormément de temps là, pour les Sharks là, parce que on vient de mentionner un peu là, pourquoi on les a placés 7 et 8 là, respectivement. Donc, on va passer au sixième rang. Je vais te laisser aller avec ton équipe numéro 6.
Écoute, c'est mon upset. Là. Je pense que malheureusement, moi, j'ai mis les Canucks en sixième. Donc, j'ai mis les Canucks en sixième. Ils vont être très bien dirigés cette année, mais je pense que les 6 premières positions vont être très serrées du côté de la Pacifique. Curtis Lazar, je n'ai pas vraiment confiance en ça. Wyatt, Kalinuk, puis Colin Delia, ce n'est pas des joueurs que je trouve qui sont un impact solide. On a une très bonne équipe du côté de Vancouver, beaucoup de jeunes talentueux. On a vu l'année passée, ça allait un petit peu mal au niveau de la cohésion. On ne sait pas comment ça va aller cette année avec les canons du côté de Vancouver. Mais ça pourrait être l'équipe qui va me faire mentir. Puis honnêtement, au niveau canadien, je souhaite qu'ils me fassent mentir. Je pense juste que il nous manquait peut-être une coupe d'affaires, c'était aller chercher, mais peut-être qu'on veut y aller par l'avenir. Mais moi, je pense qu'on est vraiment pas loin du côté de Vancouver. Un an ou deux maximum, on va être tout nouveau des séries. Mais je pense que là, on a réglé le coaching staff, on a réglé aussi le deuxième étage au niveau des DG, puis toutes les personnes se sont rachetées l'année passée. Donc, je pense qu'il manque encore un an ou deux pour Vancouver pour aller passer les séries. Là.
Sixième rang, attachez votre tuque. J'ai mis les Golden Knights de Vegas. Ça va être très difficile pour les Golden Knights d'être compétitifs cette année sans les services de Robin Lehner. On ne l'a pratiquement pas remplacé devant le filet. J'essaie d'aller voir là, c'est qui les gardiens. Je sais qu'il y avait, je pense que c'est Adam Hill qui sont allés chercher du côté de Vegas, si je ne me trompe pas. Puis il y a Laurent Brossois, je pense qu'il est encore là aussi. Fait que tu sais, c'est pas.
Il y a Thompson qui a goulé l'année passée aussi.
Ouais, c'est vrai, il y a Thompson aussi, c'est vrai, t'as raison. Mais encore là, je pense pas que c'est assez suffisant. Tu sais, dans la Pacifique, on a plusieurs équipes là, qui ont des bonnes attaques. Il y a Edmonton, il y a Calgary, LA qui devient de plus en plus offensif avec les jeunes qui s'en viennent. Même Vancouver là, qui sont capables de marquer des buts aussi. Et que je vois, en plus, le départ de Max Pacioretty qui peut faire mal aussi. On l'a remplacé par Phil Kessel, mais est-ce que c'est vraiment de la même qualité que Pacioretty? Je ne suis pas convaincu. Sans rien enlever à Kessel, là, je pense plus que c'est le marqueur de 40-50 buts qu'on a déjà vu dans le temps. Là. Fait que non, on dirait que j'anticipe la chute des Golden Knights. Puis honnêtement, c'est pas moi qui va s'en plaindre parce que pour vrai, j'ai plus aucun respect pour cette organisation-là, pour vrai. Fait que ils peuvent même crouler là, en bas, puis ça va faire mon bonheur.
Écoute, j'aime la franchité, c'est parfait, j'aime ça de même. C'est parfait, écoute, c'est sûr que les Golden Knights, moi je les ai mis pas mal plus loin. Je pense que c'est une équipe qui est encore très dominante, mais je vais en parler peut-être, mais je suis rendu à mon rang tantôt. Mais c'est pas faux, là. Comme j'ai dit, ça pourrait être un upset cette année. Ça se peut que Vegas se plante à cause de Robin Lehner pas là. On a quand même perdu Pacioretty, comme tu dis, mais je trouve qu'on a cherché d'autres bons joueurs aussi, donc je vais en parler tantôt.
Ce qui nous amènerait donc à la position numéro 6, tu l'avais mentionné, tu as dit les Canucks.
Ouais, Vancouver, ouais.
Qui nous amène à 5. Je vais aller en premier si ça ne te dérange pas pour celle-là. Moi, j'ai mis les Ducks d'Anaheim. Je pense que les Ducks vont progresser encore une fois cette année avec les jeunes. McTavish, là, je pense qu'il va avoir pas mal de yeux sur ce joueur-là. Il a été excellent au championnat du monde d'hockey junior cet été. Un gros bonhomme qui n'a pas peur d'aller dans le trafic, capable de marquer des buts et qui est talentueux aussi. Je pense que ça va être un bel ajout du côté des Ducks. Il y a des Drysdale aussi qui vont avoir plus de galons. L'ajout de Klingberg aussi qui pourrait être intéressant. Et l'ajout de Strom aussi. La seule raison pour laquelle je les ai placés cinquième, c'est que je pense, évidemment, ça va tellement sonner logique ce que je vais dire, mais je pense que les 4 équipes que j'ai placées devant sont meilleures à cet niveau, contrairement aux Ducks. Mais je pense que du côté des Ducks, on est encore à peut-être une année là, de devenir vraiment compétitif. Là, lorsque les Eagles vont prendre plus de galons, l'arrivée de McTavish, comme j'ai mentionné, Drysdale aussi. Donc, non, je pense que les Ducks, c'est moins que le fun d'avoir cette année, mais je pense pas que ça va être encore pour... ça sera pas pour cette année les séries, ça va être peut-être plus l'an prochain.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je les ai mis aussi à ce rang-là pour la même raison que toi. Je pense qu'on est proche. On a quand même rejeté Ryan Strome. Je ne sais pas s'il va faire le même nombre de points qu'année passée. Il a quand même eu une très bonne saison avec 54 points sur les 14 rencontres. Il a joué avec New York, évidemment. On a aussi son coéquipier qui l'a rejoint avec Frank Vetrano. John Klingberg, contrat d'une saison qui s'en repart des Stars finalement. Après deux saisons, on a demandé. Donc, écoute, je les ai mis 5e, moi, avec. Je pense que c'est une année de d'expérience, puis dans le fond, le cœur vieillit un petit peu, là, on s'entend. Là. Mais je pense que c'est une expérience pour eux autres, puis je pense que ça va être juste bénéfique. Cette équipe-là va quand même bien repêcher dans les dernières années. On a des bons joueurs électrisants, évidemment, Trevor Zegras, on a McTavish, on a même Maxime Comtois, s'il peut enfin jouer sans les blessures cette année, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc, c'est une équipe qu'on va faire surveiller, mais ça pourrait être une équipe qui upset, puis qui pourrait venir chercher une position dans les séries, s'il y a des bonnes séries de victoires. Donc, écoute, 5e aussi, c'est une bonne place pour les mettre.
Ben écoute, moi, du côté des Ducks, là, je pense que ça va être une équipe qui va se battre quand même. T'sais, finir 5e. Ils vont finir 5e. J'ai pas une boule de cristal, là, mais je veux dire, selon mes prédictions, ils vont finir 5e, mais ils vont être longtemps dans la course là, pour les séries. Je pense pas que ça va être une équipe là, qu'on va écarter à partir du mois de janvier-février. Je pense qu'ils vont être dans la course là, jusqu'à la fin. Parce que si tu regardes l'attaque, là. La seule chose, c'est peut-être au niveau des ailes que ça pourrait être plus. Que ça pourrait être meilleur. T'sais. Henry, si là, évidemment, je me fie sur le site Daily Face-Off, là, donc c'est pas coulé dans le béton. Mais si on regarde présentement le top 6, c'est pas mal Henry, Zegras, Terry, Vetrano, Strome puis McTavish. T'sais, Henry puis Vetrano, honnêtement, dans une équipe mieux balancée que ça, c'est pas dans le top 6. C'est plus un des joueurs de troisième trio. Donc, peut-être au niveau des... En tout cas, selon moi. Et je pense que c'est peut-être plus au niveau des ailes. Mais tu sais, la ligne de centre, Zegras, Strome. Après ça, tu as Lundstrom sur la troisième ligne. Derek Grant, là, qui est sa quatrième ligne. Mais tu sais, la ligne de centre, je pense qu'elle va être parfaite comme ça. Mais ça va peut-être juste ajouter un ailier top 6 ou 2 dans les années à venir. Et on va être en mesure là, d'être plus compétitif. Parce que sinon, en défensive, là, ça va être du bon sens. Là. Tu regardes la défensive, tu as Fowler, Drysdale, Klingberg, Shattenkirk, Kulikov aussi qui a ajouté, qui pourrait être Kulikov. Une bonne addition aussi, un bon défenseur défensif. Puis devant le filet, ben évidemment, on mise toujours sur un gars comme John Gibson, donc c'est jamais perdu là, avec Gibson. Là, il est capable de voler des matchs. Ben, je pense que les Ducks vont être compétitifs, mais comme j'ai mentionné, ce ne sera pas pour cette année les séries.
Non, effectivement, puis on va rajouter un Shattenkirk aussi qui a de l'expérience. Donc, comme tu dis, je pense que c'est une équipe qui va se battre longtemps. On va le voir. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui va être en train de frôler les séries. Puis l'année prochaine, on va avoir encore une belle division au niveau de ce côté-là.
Numéro 4. Je vais te laisser y aller pour la quatrième équipe.
Quattro. Moi, c'est Vegas. Donc, Vegas, j'ai mis 4e, juste sous le bord des séries. Une transition, moi, je pense, à Vegas. Là, c'est sûr qu'on a des blessures au niveau de Robin Lehner, mais je pense qu'on a quand même un petit peu de... On a quand même un petit peu de monde en arrière d'eux autres, puis on a un punch offensif peut-être que les autres équipes n'ont pas de ce côté-là. Oui, on a perdu Pacioretty, mais moi, je pense qu'on n'a pas tant perdu que ça. C'est pas un gars qui travaillait fort, de toute façon. On a aussi Nicolas Roy qui a signé un beau contrat, donc un joueur de 3 ou 4e trio, mais je pense qu'il y a des joueurs là-dedans qui peuvent step up. Jack Eichel, on ne sait pas comment il va aller cette année. Est-ce qu'il va avoir un point par match? Est-ce qu'il va exploser cette année? On ne sait pas non plus. C'est un petit peu un dé à lancer. Mais si Jack Eichel peut être en forme cette année, c'est un key dans cette équipe-là. Donc, c'est une vedette. Moi, je les vois 4e à cette raison-là. J'aurais pu les mettre 3 ou 4. Ça ne changeait rien pour moi. Mais je pense qu'on a quand même notre punch offensif du côté de Vegas. Phil Kessel, on est rapporté un petit peu de stabilité, je pense, puis d'expérience. C'est quand même un gars de la Coupe Stanley. C'est un gars qui se tenait pas vraiment à fond avec les Coyotes, puis on sait tout pourquoi. Là. Donc, on a un gars qui va arrêter de manger des hot dogs un petit peu à Vegas, puis qui va se forcer. On va faire avoir une équipe qui peut gagner avec lui. Donc, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Donc, comme je te dis, moi, je pense que le niveau des gardiens de but, on est quand même pas si mal. Logan Thompson, j'ai bien aimé sa fin de saison. Je pense que l'équipe aussi est vraiment à l'aise avec lui dans les buts. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir, mais moi, je pense que Vegas va faire essayer.
C'est sûr que le point que j'ai peut-être négligé un petit peu du côté de Vegas, c'est le fait que l'année passée, Eichel a été blessé pendant toute la saison, ou presque. Mark Stone a seulement disputé 37 matchs aussi. Donc là, on va avoir probablement ces deux joueurs-là en santé dès le départ. Donc ça, c'est déjà bon là, pour Vegas. Mais comme j'ai mentionné avec Leonard, je trouve ça un peu... Je ne sais pas si les gardiens vont être en mesure de tenir le fort de ce côté-là. Puis il y a peut-être ça à l'attaque. Le top 6, je ne suis pas un grand partisan du top 6. Encore une fois, j'aime beaucoup la ligne de centre, mais Chandler Stephenson sur le premier trio, puis Riley Smith, top 6. C'est sûr que tu peux interchanger avec Kessel à la limite. Mais bon, est-ce que Jack Eichel va se lever en tant que leader ou si ça va être un Jack Eichel qui va pas être un poison dans le vestiaire, mais tu sais, on connaît un peu là, les rumeurs à son sujet du côté d'Eichel, que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur leader là, du côté de Buffalo. Est-ce qu'il va amener ça avec lui du côté de Vegas ou s'il va repartir ça en nouveau de ce côté-là? J'ai hâte de voir. Mais non, je pense que Vegas peut être compétitif, mais je sais pas. C'est peut-être mon souhait personnel
de pouvoir comme la clé. Là. C'est ça l'affaire. C'est que tu sais, moi, je vois pas Leonard comme la clé à Vegas. Là. C'est pas le gars qui a sauvé cette équipe depuis 3 ans. Là. En tout cas, je vois pas. Là. Tu sais, il n'y a pas des statistiques de feu l'année passée, le 23 victoires, 17 défaites. L'année avant, 13-4, mais on avait Marc-André Fleury qui était là. Donc, moi, je pense que c'est pas le qui là-bas, c'est justement pas les gardiens de but. Je pense qu'on a assez d'attaques, on a assez une défensive correcte. Sans être la meilleure, mais on a quand même des bons joueurs. Le Shea Theodore, on a Pietrangelo, on va avoir McNabb, Martinez, on va avoir... il y a quand même Ben Hutton qui va être là vraiment aussi dans le roster. Donc, c'est tous des joueurs qui sont capables de jouer. Là, c'est pour ça que je vois pas pourquoi Leonard serait la seule raison pourquoi il ne ferait pas la job. Mais bon, ça, c'est mon opinion.
Moi, je pense que c'est plus comme une situation un peu à la Edmonton. Tu as comme tout le club en avant, mais tu as le goaler qui ne fait pas l'air en arrière, qui fait en sorte que ton équipe coule en bout de ligne. Mais c'est vrai que du côté de Vegas... Par exemple, ils ont une meilleure défensive que les Oilers avaient à l'époque, dans les dernières années. Fait que, ça peut aider aussi. Mais le problème, c'est que tes deux gardiens de but, l'expérience NHL n'est pas si énorme que ça. T'sais, c'est pas... Mais bon, c'est peut-être c'est des fois...
Comme la défensive très green,
c'est possible. Là,
mais c'est sûr que ça va arriver dans les... T'sais, c'est pour ça qu'ils sont quatrième. Là. Il va arriver des rencontres, ça va être serré qu'ils vont perdre. Parce que justement, ils ne réussissent pas à faire la job défensivement ou par la goaler. C'est normal. C'est pour ça qu'ils sont quatrième aussi. Là. C'est là que je les vois quatrième.
Quatrième rang, moi, j'ai mis la formation de Bruce Derrides, les Canucks. J'ai mis quatrième. Parce que depuis qu'il est arrivé à Vancouver, ça a carrément changé l'organisation. Maintenant, la question, est-ce que ça peut durer sur un 82 matchs? C'est ça que j'ai hâte de voir. Mais du côté des Canucks, on a le talent. Là. On a les Horvat, on a les Peterson, on a les Brock Besser. Demko devant le filet qui est très bon. Défensivement, c'est peut-être là le petit point d'interrogation. Je pense que du côté des Canucks, on s'attendait peut-être un peu plus d'Oliver Ekman-Larsson lors de son arrivée. Là, il n'a pas été...
Pourrait rebondir, par exemple.
Comment?
Pourrait rebondir, par exemple.
Oui, il pourrait rebondir, ça, c'est sûr.
Mauvaise année.
C'est une valeur sûre. Mais sinon, peut-être la défensive peut être un petit peu plus suspecte, mais je pense que du côté de Vancouver, ils sont dus pour rebondir après une saison plus difficile. Puis aussi, ils ont signé un joueur russe, le Kuzmenko, quelque chose du genre. Là. J'ai pas le nom par cœur, là, mais ça a l'air d'être un joueur là, qui était quand même bien vu là, lorsqu'il jouait en Russie. Donc, c'est un ajout qui pourrait être intéressant du côté de Vancouver. Mais tu sais, les positions 4 à 6, pour ma part, ça peut tellement être interchangeable parce que parmi Anaheim, Vegas puis Vancouver, je vois pas vraiment une équipe dans les trois que je les vois vraiment plus haut que les deux autres. Je pense que c'est trois équipes qui vont lutter pas mal pour ces postes-là tout au long de la saison. Tu sais, je pense pas qu'ils vont avoir vraiment un gros écart entre la quatrième et la cinquième place. Je pense que 4, 5 et 6, ça va quand même se suivre tout le long de la saison.
Ouais, puis je pense que c'est ça la beauté de cette division-là. C'est que l'année passée, on a vu vraiment des équipes qui étaient en bas de la ligne. Puis on avait des équipes qui étaient en haut de la ligne. Puis là, je pense qu'on a vraiment rendu qu'un bon mix. On a fait des efforts du côté des équipes comme Seattle, San Jose, Vancouver, Anaheim. Los Angeles, Vegas. Fait que je pense que ça va être un bon mix présentement dans cette division-là. Mais comme tu dis, ça peut être aller. Vancouver, écoute, est-ce que le fait que Bruce Boudreau là va aider? Probablement. C'est un coach, c'est un très bon entraîneur, donc ça va sûrement aider. Puis moi, surtout que c'est un fan de Kevin Owens, ça fait ma journée en plus. Je sais pas si vous avez
vu ça. Mais pourquoi t'es pas le premier d'abord?
Je sais pas si vous avez vu ça passer au draft, mais c'était assez incroyable pareil. La face de Bruce Boudreau, là, c'était priceless. Un petit throwback.
Écoute, Stéphane, on attaque les choses sérieuses. On passe au top 3 de la division. Troisième position.
Qui t'as mis, Stéphane? J'ai mis Los Angeles.
Oh. On ne s'ostinera pas là-dessus.
Moi, j'ai mis Los Angeles parce qu'ils m'ont vraiment impressionné l'année passée. Écoute, pas un gros fan. J'étais pas un gros fan de leur équipe l'année passée, mais écoute, ils nous ont cloué le bec. Un bon top 6. On a vu que ça avait beaucoup, beaucoup de conséquences. On a deux bons centres défensifs, mais qui ont produit. Je suis content de Philippe Dano l'année passée. Il a marqué ça quand même 24 buts, je pense, ou 26 buts. Philippe Dano, 27 buts, excuse-moi. Donc, 51 points. Donc, clouer le bec à M. Bergevin qui est revenu le rejoindre pour s'excuser. Donc, donc, je pense que c'est une année de transition l'année passée, mais je pense qu'on a une très belle équipe du côté Los Angeles. Par contre, ce que j'aimerais et ce que j'espère, c'est que peut-être les 10-12 meilleurs joueurs en fassent un petit peu plus cette année. On a quand même une bonne différence entre les deux meilleurs scoreurs, trois meilleurs scoreurs et les autres après. Donc, il faut voir que les Kings cette année ne soient pas seulement le fait d'un trio ou deux trios, mettons. Là. Il va falloir qu'on donne plus. Mais je pense qu'on a quand même été chercher des éléments qui sont intéressants. Kevin Fiala va venir aider. On a Frédéric Allard aussi dans le Québécois qui vont être là. La seule bémol que j'ai pour eux autres, c'est vraiment dans les buts. Je suis pas sûr. Puis je sais que Jonathan Quick est bon à chaque année. Mais je suis pas sûr que le duo Quick-Peterson va vraiment être incroyable cette année. Je l'espère pour eux parce que ça va passer par là. Mais je pense que défensivement, on est assez puissant du côté des Kings pour être capable d'aider nos goalers. Puis écoute, tu sais, Anderson, Doughty, Bjorfot, Roy, Edler, Dursey. C'est quand même un bon top 6 aussi. Donc, on n'aura peut-être pas le punch offensif de feu du côté de Los Angeles. On va peut-être avoir une meilleure offensive parce qu'on a quand même les Quinton Byfield qui vont être là cette année. Mais je pense qu'on est proche d'avoir quelque chose de le fun avec les Kings. Puis c'est pour ça que j'ai mis 3e.
Ben écoute, comme j'ai mentionné tantôt, on ne s'ostinera pas. Là, moi, tout, je les ai mis 3e. Une équipe qui a surpris l'an dernier. L'ajout de Fiala, ça va vraiment donner une dynamique intéressante à une équipe qui était pas la plus électrisante du côté des Kings. C'est une équipe qui est efficace, mais peut-être pas la plus spectaculaire à voir aller. Mais comme tu as dit, il y a des jeunes qui s'en viennent. Il y a les Byfield. Est-ce qu'on va voir peut-être un peu des matchs d'Alex Turcotte aussi qui a été repêché très haut, mais qui tarde à faire sa place dans l'équipe. Sean Dursey qui a été aussi une belle révélation en défensive là, l'an dernier en l'absence de Drew Doughty. Donc, non, je pense que ça va être une belle petite équipe du côté des Kings. La seule raison pour laquelle je ne les ai pas placés plus haut, c'est que je pense que les deux autres équipes ont plus de, comme j'ai mentionné, de firepower. C'est un terme que j'utilise souvent, mais tu sais, je pense que les deux équipes en avant, ils ont pas mal de punch à l'attaque, plus que du côté des Kings. Mais LA va être. Puis tu sais, ce qui va aider aussi LA, c'est que autant que, tu sais, comme j'ai mentionné, les positions 4, 5 et 6, tu sais, ça va être pas mal des équipes qui vont suivre, mais je pense qu'il va y avoir une démarcation entre la 3 et la 4. Là. Je pense que la compétition là, pour les Kings et les deux autres équipes qui sont en avant 2. Que vous aurez deviné, on a placé les deux, les Oilers et les Flames en avant. Je pense que la compétition ne sera pas si féroce que ça dans cette division-là. À partir, il va y avoir le top 3 puis le reste. Ouais. Ouais, il va y avoir une séparation entre le 3 et le 4. Donc, du côté d'LA, je pense que lorsqu'on va jouer des matchs contre justement Seattle, des matchs contre LA, San Jose, j'ai envie de dire à la limite Vegas, mais toi, tu es plus compétitif que moi cette année, puis c'est bien correct. Mais tu sais, quand tu vas jouer contre au moins Seattle, Anaheim, même Vancouver, ça va être des matchs que j'aurais envie de favoriser, là, les Kings.
Ça va être difficile. Mais, ouais.
Donc, tu sais, c'est des points qui vont être. Je ne veux pas dire que tous ces matchs-là, ça va être des points facilement ramassables, mais ça va être des points assez accessibles là, pour les Kings. Il suffit juste de quand même bien jouer. Tu sais, on a deux des meilleurs centres défensifs là, de la ligue. Ouais, ouais. En partant, on peut étouffer bien des trios avec deux. Ça. Puis, tu sais, j'en ajoute aussi des gars comme Adrian Kempe, qui est bon offensivement, mais qui est très bon aussi dans sa zone. Fait que, tu sais, c'est une équipe qui est peut-être plus axée sur la défensive, mais qui vont leur permettre d'aller chercher des points justement là, contre les équipes plus de bas de classement.
Oui, c'est surtout une équipe qui s'améliorait en vitesse. T'sais. On n'avait pas beaucoup de vitesse depuis les 5-6 dernières années. L'année passée, on a amené du monde qui patinait, je pense, un petit peu vite. Puis encore une fois, cette année, on y va vraiment encore. T'sais, Alvinson, c'est un gars qui est rapide. Je pense qu'on a une meilleure relance au niveau du côté des Kings aussi. Donc, oui, tu dis que ça va être des points prenables versus leur division, mais ça va être aussi des points prenables contre les autres équipes des autres divisions. Je pense qu'on a peur au jeu du côté des Kings. On a une bonne équipe qui peut être overall et avec les autres divisions qui peuvent vraiment relier. Puis on l'a vu en série. Hein, est-ce qu'un duo défensif comme Kopitar et Dano vont être capable de maîtriser des gros canons, des Flames ou des Oilers, dépendamment qui vont jouer contre? Mais ça reste la même chose avec les équipes de l'Est ou les autres équipes de l'autre division. Donc, c'est une équipe qui va peut-être nous surprendre. Encore une fois, c'est peut-être une équipe plus plate à regarder, le fameux système défensif. Mais je pense que du côté des Kings, on va quand même avoir du fun à regarder en heure de grande écoute là, à 10h le soir. Ça va être le fun.
Ouais, il va falloir se coucher tard éventuellement. Mais bon, moi, je vais être en congé parental pendant une bonne partie de la saison. Fait que je vais me gâter là-dessus.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre?
Je vais regarder bien du hockey pendant.
C'est correct, ça sera prophétisant.
Mérite. OK, numéro 2. Bon, là, vous avez deviné qu'on a placé les deux équipes canadiennes, Edmonton et Calgary. Mais là, la question qui tue, est-ce qu'on les a placées dans le même ordre? Oh. Fait que je vais aller avec mon numéro 2, vu que tu me pointes agressivement avec ton index. J'ai mis les Oilers deuxième.
Ah, je savais qu'on s'en est posé.
T'as mis Calgary?
J'ai mis Calgary deuxième.
Bon. Ouais. Je pense que du côté d'Edmonton, ils ont enfin fait ce que je voulais qu'ils fassent depuis un méchant bout, c'est-à-dire se trouver un gardien qui a de l'allure en Jack Campbell. Est-ce que c'est le meilleur candidat pour remplir ce rôle-là à Edmonton? Peut-être pas, mais je pense que du côté d'Edmonton, on n'a pas besoin d'un gardien de type Vezina dans le filet, on a juste besoin d'un gardien qui fait au moins le travail correct. Ce que Mike Smith et Koskinen avaient beaucoup de difficultés à faire dans les dernières années. Là, on a un gardien qui va être capable d'arrêter des rondelles. Est-ce qu'il va voler des matchs? Peut-être pas. Mais quand tu as un Connor McDavid et un Leon Draisaitl en avant de toi, tu n'as pas vraiment besoin de voler le match tant que ça. Il suffit juste que tu en arrêtes. Au moins, là, tu en laisses passer deux, tu vas être correct. Trois, aussi à la limite. Rends-toi pas à quatre, par exemple. Là, mais tu sais, tu n'es pas obligé de signer des jeux blancs à chaque match. Tu as juste besoin d'un gardien qui fait la job correct, puis les deux autres en avant vont s'occuper du reste. Puis, il ne faut pas négliger non plus le fait que Edmonton devient une meilleure équipe au niveau de la défensive. Ils ont des défenseurs qui s'en viennent. Là. Evan Bouchard, ça va être vraiment un stud là, dans les prochaines années du côté des Oilers. Darnell Nurse qui va revenir en force. Là, je pense qu'il avait été blessé un peu l'an dernier. Sinon, il y a Broberg qui va peut-être également démarrer la saison du côté d'Edmonton. On a aussi...
Brett?
Qui?
Tu parles pas de Brett? Brett Kulak?
Ah ben oui, notre ami. Come Brett. On. Non, mais attends, je le gardais pour la fin, là.
T'as qu'est-ce que je veux?
Mon envolé, là. J'allais dire Tyson Berry, que offensivement, pas défensivement, parce que défensivement, c'est catastrophique, mais offensivement, c'est quand même pas pire. Et Brett Kulak, pour terminer, qui va stabiliser cette défensive-là du côté d'Edmonton. Mais non, honnêtement, du côté des Oilers, on a des défenseurs qui s'en viennent. On est meilleur défensivement, puis on a encore une fois l'attaque. La seule chose que j'applaudis pas, par exemple, du côté des Oilers, on a re-signé Evander Kane, c'est correct, mais là, on parle d'amener Jake Virtanen. C'est quoi, tu veux-tu l'équipe la plus thug de l'histoire de la NHL ou c'est quoi?
On veut du grit, man.
Explique ta stratégie, Ken. Que moi, je comprends pas trop.
On veut du grit, comme ça, les gens, la gente féminine sera pas dans le décor.
C'est si bol.
Calvasse, hein. Mais il faut quand même dire que Virtanen est accusé faussement, par exemple. Ça, c'est bon à dire.
Ouais, mais mettons. Okay.
Mais j'aimerais le fumer sans feu. J'aimerais le fumer sans feu. Ça regarde pas très bien. Effectivement, écoute, tes amis, évidemment, deuxième, j'ai mis premier pour probablement les mêmes raisons. Je pense qu'on t'a cherché le goaler qu'il fallait en Jack Campbell. Je pense que c'est un gars que même avec Toronto, était tout seul, de toute façon, pas de défensive. Donc, il va être habitué. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui va être déjà connu, mais là, on a un punch à l'attaque encore plus puissant. On n'a quand même pas de mauvaise défensive. Daniel Hughes devrait jouer avec Cody Ceci, qui sont quand même un très bon duo défensif-offensif. On a Brett Kulak avec Evan Bouchard qui devrait jouer ensemble, qui est quand même un bon father and son, là, on va se dire comme ça. Là. C'est un gars qui va pouvoir épauler Evan Bouchard, qui est quand même 22 ans, mais qui fait déjà très bien dans la Ligue nationale. Une très belle évolution l'année passée. Puis on parle aussi du côté de Philips Broberg avec Tyson Berry. Donc, c'est probablement des duos de défenseurs qui vont être assez bons. Il y a tout le temps un petit côté offensif de ce côté-là, puisque les Oilers sont très offensifs. Mais je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction au niveau défensif. Puis au niveau de l'attaque, bon, pas besoin d'en parler. Là. Si on peut séparer Connor McDavid et Leon Draisaitl, on tombe à trois bons trios, je pense. Le quatrième trio va jouer avec Mathias Carman, qui a joué avec le Vegas. qui va être un bon ailier gauche défensif. Donc, on a vraiment du punch à l'attaque. On est Vander Kane, s'il peut continuer à juste la mettre dedans puis arrêter de s'ouvrir la manche patate, ça va bien aller. Donc, moi, je les ai mis premiers à cause de ça. Je pense qu'on a vraiment beaucoup d'offensés. Puis, il a l'air d'être en mission. Je ne sais pas si tu regardes les entrevues de l'équipe, les entrevues des joueurs dernière semaine, même ceux de notre ami Drysdale et notre ami McDavid. Les gars, on l'air d'être en mission. Je pense qu'on veut, on veut pas finir... On veut pas finir ailleurs que premier dans la division. Je pense qu'on va faire en sorte que ça va arriver.
C'est intéressant également de suivre où Dylan Holloway va se situer dans cette équipe-là. Oui. Là, qui devrait être le prospect là, qui va faire l'équipe là, du côté d'Edmonton. Lui qui a disputé quelques matchs, là, je pense, en série ou peut-être en fin de saison. Il avait fini sa saison NCAA. C'était ouais. Joint ensuite là, aux Oilers. Ça a été le choix de première ronde d'Edmonton il y a 2 ans. Fait que j'ai hâte de voir là, s'il va être en mesure de percer l'équipe. Sinon, le mystère pour Yarvi, est-ce qu'il va être échangé? Est-ce qu'il va rester encore à Edmonton? On dirait qu'à chaque saison, il y a tout le temps des rumeurs à son sujet, voir s'il va quitter ou pas. Il est encore un Oilers présentement. On attend encore son éclosion. Là, lui qui avait été repêché quand même top 5 là, en 2016. On attend toujours là, qu'il remplisse là, les attentes. Est-ce que c'est la saison de la dernière chance dans son cas? J'ai hâte de voir parce qu'on l'attend depuis un bout là, pour Yarvi, puis on dirait que ça ne veut pas. Sans dire qu'il est mauvais, mais il remplit clairement pas les attentes qu'on avait envers lui lorsqu'on l'a repêché. Là, je pense que c'était 4e ou 5e ou 3e, je ne me souviens plus, lors du repêchage de 2016. Fait que ça va être un dossier à surveiller, mais sinon, tu sais, du côté d'Edmonton, ben, on a toujours les Zach Hyman qui vont être là. Yamamoto, c'en a un autre aussi qu'on espère peut-être un petit peu plus du côté d'Edmonton. On oublie aussi Nugent Hopkins qui est toujours là. Il y a Yann Marc là, qui est aussi là avec Derek Ryan et Devin Shore pour compléter la 4e ligne. Mais évidemment, l'offensive peut passer avec McDavid et Dreisaitl.
Oh.
Mais non, je pense qu'Edmonton là, peut facilement starter une place dans le top 3 pour faire les séries. Reste à voir maintenant si Jack Campbell va faire un meilleur travail que Smith et Koskinen. Moi, j'ai envie de te dire oui en partant, mais des fois, on ne sait jamais. Mais s'il peut juste faire la job sans être excellent, je pense que les Oilers vont être en bonne posture.
Oui, effectivement. Puis je suis d'accord avec Jesse Puljujärvi. Je pense qu'on avait l'espoir avec un gros joueur quand même, un gros attaquant, puis ça n'a pas fonctionné. Parler plusieurs fois que ça en irait, mais c'est pas fait. Donc, on va voir comment ça va aller. Mais effectivement, c'est des choses qui va falloir qu'ils se règlent au niveau des Oilers, si on veut. Probablement que les Oilers vont être très agressifs au niveau des transactions aussi, mais que la limite de transaction arrive. Si on est en bonne posture, puis on veut vraiment aller loin, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire rapidement, puis d'aller chercher des joueurs aussi. Là.
Et numéro 1, en tout cas pour moi, mais numéro 2 pour toi, les Flames de Calgary. Je vais te poser une question en partant, puis c'est pas pour faire mon fin finaux, je veux juste avoir ton point de vue. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre les Flames deuxième et les Oilers premier? C'est quoi, la différence entre les deux équipes pour ces deux positions-là?
Écoute, moi je pense que le core qui est parti était très bon offensivement. C'était quand même 220 points, je pense, les deux ensemble l'année passée. Jonathan Huberdeau, as-tu connu une aussi bonne saison? Je lui souhaite. Est-ce que Nazem Kadri va connaître une bonne saison? Je lui souhaite. Je pense que... Est-ce que Calgary s'est amélioré ou est resté pareil? Je n'étais pas capable de le dire. Je ne suis pas capable de dire si le Calgary va remettre dominant. Jonathan Huberdeau, c'est pas un mauvais joueur. Je l'adore à mourir. Nazem Kadri, même chose. Je pense qu'il a fait des bonnes choses avec le Avalanche l'année passée. Mais les deux ensemble, Tkachuk et M. Hockey, là, je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est un punch d'attaque qu'on a perdu. Mais j'ai hâte de voir si la chimie va prendre avec les autres. Donc, je pense que c'est une année de transition, mais pas une année de transition. Je pense qu'ils vont être vraiment compétitifs. Je pense que ça va prendre peut-être une vingtaine de rencontres avant que cette équipe-là soit vraiment dominante. Donc, rendu là, je pense que les deux... Tu sais, Edmonton Calgary, je ne serais pas surpris qu'ils soient vraiment, vraiment talonnés à la fin, là, quelques points qui vont les séparer. Mais dans ma tête à moi, je pense que... Calgary, je pense qu'ils sont améliorés au niveau talent, sont améliorés au niveau expérience peut-être que Johnny Hockey puis que Tkachuk, mais je pense qu'on a perdu peut-être un peu de grit qu'on avait avec ces deux joueurs-là qu'on a peut-être plus présentement.
Ça se défend. Écoute, du côté des Flames, c'est pas compliqué. On avait le meilleur trio de la LNH l'an dernier avec Lindholm, Tkachuk et Gaudreau. Est-ce que la sauce va pogner avec les Huberdeau, les Toffoli? J'ai hâte de voir. Moi, la seule raison pour laquelle que j'ai placé Edmonton en avant, derrière Calgary plutôt, c'est que j'aime beaucoup la défensive des Flames, surtout avec l'ajout de Uyghur dans la même transaction de Huberdeau. lui qu'on avait découvert là, du côté des Panthers, là, qui avait vraiment bien pris le relais lorsque Ekblad là, s'était blessé. Et tout le temps-là, il était excellent. Là, on se retrouve avec un top 4 de Noah Hanifin, Rasmus Anderson, qui est un autre défenseur qui progresse de plus en plus, avec Uyghur, Tanev en top 4. Là, tu ajoutes Zadorov et Carlington comme troisième paire. Pour vrai, cette défensive-là, avec Markstrom devant le filet, je pense que c'est supérieure à celle des Oilers, qui n'est pas mauvaise non plus. Mais j'aime un peu plus celle des Flames. Puis je pense que du côté des Flames, on va avoir le punch à l'attaque quand même. Peut-être pas autant que les McDavid et Draisaitl. Mais tu sais, Huberdeau a quand même récolté 100 points. Là, si c'est pas l'an passé, c'est v'là 2 ans. Là, l'année que. En fait, je pense que c'est l'an passé, ce qu'on parlait là, de s'il devait être MVP ou pas là, à la fin de la saison. Donc, il a connu toute une saison du côté de Calgary. Toffoli, ben, c'est un 25-32 assuré normalement. Seule chose qui m'inquiète un peu, c'est le reste. C'est parce que, évidemment, je me fais encore sur Daily Face-Off, là. Mais Blake Coleman, Nazem Kadri et Andrew Mangiapane comme deuxième trio, je ne suis pas tant vendu. Mangiapane est très bon, c'est peut-être plus Coleman là, que je vois plus sur une 3. Est-ce que le joker dans cet alignement-là, c'est peut-être Jacob Pelletier qui peut percer l'alignement des Flames et starter une place directement dans le top 6, lui qui avait été dominant dans la Ligue américaine l'an dernier? Est-ce qu'il peut venir donner un coup de main offensivement ou si on va peut-être plus le starter sur une 4 ou sur une 3 puis on va espérer qu'il va bien jouer puis se hisser une place là, dans le top 6? C'est peut-être ça la carte cachée du côté des Flames, mais ce qui va peut-être leur faire mal, ça va être la profondeur à l'attaque. Mais sinon, pour le reste, là, je pense que la défensive puis les gardiens de but là, sont en business avec ce qu'ils ont présentement.
Ouais, moi, c'est ce qui me gossait un petit peu, c'est l'attaque. C'est que t'avais un trio exceptionnel l'année passée qui ont cumulé 300 points ensemble. Et après ça, t'avais juste un joueur puis deux défenseurs. Donc, dans ma tête à moi, c'est cinq joueurs ensemble qui ont fait 400 points. Puis après ça, on descend vraiment en bas. Tu sais, Toffoli s'est pas blessé, peut faire probablement 30 buts, mais on a juste 11 en 37 rencontres l'année passée. On n'a plus Sean Monahan qui va probablement aider dans le vestiaire, mais on a des bons défenseurs. On a probablement une meilleure défensive de la Ligue nationale, mais on a peut-être. Je pense pas que Huberdeau est capable d'amener l'offensive à lui tout seul avec Nazem Kadri. Je sais pas comment que ça va coller ou si avec Lynn Holmes, s'ils jouent les trois ensemble. On checkait les rosters tantôt. Là, est-ce que Huberdeau, Lynn Holmes, Toffoli comme premier trio? Je suis pas vendu. Mais en même temps, c'est les seuls que tu peux mettre là. Donc. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment le niveau offensif qui me fait peur. Je pense qu'on avait vraiment les 5 bons l'année passée, mettons les 4 bons. Mais si on peut produire autant offensivement, c'est sûr que défensivement, puis le gardien de but, on est pas mal supérieur dans cette division-là, avec Markstrom, comme tu disais. Mais c'est vraiment l'attaque qui me fait peur. Je pense pas que cette année, on va voir les Flames marquer des 7-8 buts par rencontre. Je pense qu'on va jouer des matchs plus serrés. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment Huberdeau. Huberdeau pourrait vraiment être la carte cachée. Puis démontrer que c'est vraiment lui qui faisait la différence avec les Panthers, puis que les Panthers vont regretter ce move-là. Mais regarde le troisième, quatrième trio, ça va être difficile. Là. Milan Lucic, Kevin Roney, puis Trevor Lewis. En tout cas, moi, je trouve pas que c'est un bon quatrième trio. Là.
Non, c'est beaucoup de. C'est beaucoup, pas beaucoup de vitesse, en fait. Là. C'est vraiment lent comme quatrième trio, effectivement.
C'est des chaises roulantes.
La beauté de la chose, c'est qu'on s'ostine sur deux équipes canadiennes dans le top 2 de la division. Fait que ça, pour vrai, c'est du bonbon parce que je pense que cette année, ça peut être une bonne année pour le hockey au Canada. Surtout dans l'Ouest, peut-être un petit peu moins dans l'Est, là, à part les Leafs. Je pense que les Sénateurs, là, ils vont se battre pour une place tout au long de la saison. Mais ça, on va revenir lorsqu'on fait notre prédiction là, pour la division Atlantique. Mais tu sais, moi, je pense je peux mettre un petit 5 piastres en papier sur le bord de la table comme gageux pour dire que Edmonton et Calgary, c'est un lock en série pour la division Pacifique. Là, je pense pas qu'ils sont vraiment en danger. Maintenant, est-ce qu'ils vont finir troisième, deuxième, premier ou bien premier, troisième, peu importe. Mais je pense que ces deux équipes-là, c'est deux équipes de série. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour aller loin en série? Ça, c'est un autre dossier qu'on peut discuter lorsqu'on sera rendu là. Mais au moins, je pense qu'ils vont être capables de se qualifier là, pour les playoffs.
Ouais, t'as des bons points, puis je pense que c'est vraiment là qu'on s'en va. Puis même, on pourrait mettre une troisième. Tu as mis Vancouver à quoi? Cinquième, je pense, ou quatrième?
Quatrième.
Puis écoute, c'est pas un mauvais choix, là. Tu sais, 4 à 6 ou 4 à 8 ou 4 à 7 même, c'est pas mal. Il y a peut-être une équipe qui est vraiment moins bonne, moi, je pense, là, tu sais. Mais pour le reste, on pourrait avoir trois équipes canadiennes dans les séries. Puis l'année passée, on le souhaitait presque que tout le temps, là, tu sais. Puis Vancouver est une équipe qui pourrait surprendre, qui pourrait faire mal à Vegas, qui pourrait faire mal aux Ducks. Donc, se presque qualifier en quatrième position, venir juste par la porte d'en arrière, faire au moins les séries, prendre expérience, aller chercher un peu plus de vécu. Puis je pense que Bruce Boudreau est la bonne personne pour le faire. Mais comme tu dis, si on regarde nos deux classements, on n'est pas vraiment loin un peu l'autre. On n'est pas d'accord sur les choix, puis c'est correct. Mais je pense qu'on sait très bien qu'entre 1 et 2, c'est pas mal là qu'on est. Puis 3 à 8, on est pas mal là aussi. Là.
Ouais, puis tu sais, on regarde nos deux classements, puis il n'y a pas grande différence. Là. Le seul grosse différence, puis on parle de deux positions, je pense, la différence, c'est Vegas puis Vancouver. Sinon, le reste, on était pas mal on point. Là, pour... Fait que c'est pour ça que ça va être totalement l'inverse qui va arriver durant la saison, parce qu'évidemment, on n'est jamais capable de prédire une division comme du monde.
C'est sûr. Écoute, sinon, les deux qui l'ont parfait, on va célébrer ça.
Ben écoute, Stéphane, il nous reste un petit peu de temps. Mmh. Je vais te poser. Je sais qu'on était, on était supposé de vraiment sticker sur le classement, mais là, il y a un gros dossier chaud dans la LNH. Qu'est-ce que tu penses du petit et qui sont là sur le chandail là, de.
Ah boy.
Le logo là, pour la publicité.
Mitigé. Écoute, la Ligue nationale, c'est une business. On est là pour faire de l'argent. 31,5 millions pour 5 ans. C'était quoi? C'est ça, 6,5 millions par année? Qu'on a donné du côté de RBC au Canadien de Montréal. Est-ce que le débat, je pense qu'il est plus, est-ce que Monson a vraiment besoin? Je pense pas. Par contre, c'est une business, pourquoi pas? Donc, si je parle froidement du côté journalistique ou businessman, bon move. Par contre, je suis vraiment content que la seule équipe qui l'a pas faite, c'est les Haulers. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai mis le premier aussi. Donc, au niveau amateur, c'est sûr que c'est un emblème. C'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est un emblème. Mais du côté des Red Wings, c'est la même chose. Donc, il faut voir qu'on s'y fasse. On a mis les bandes dans les années 80, ça a été la même chose. La seule chose que j'aimerais pas, puis on dit toujours, ce serait des commanditaires partout sur les chandails, mais ça se fait à la longueur, à l'échelle de la planète ailleurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à penser. Les salaires vont augmenter, les joueurs veulent gagner plus d'argent. On check dans la NBA, dans le baseball majeur, on check aussi dans la NFL. Il y a des commanditaires partout, l'argent est de partout. Donc, si la Ligue nationale veut rentrer dans le top 5 et même top 4 des ligues les plus importantes aux États-Unis, qui vient d'ailleurs se faire dépasser par la MLS. Là. Donc, on commence vraiment à trouver ça difficile dans la Ligue nationale. Fait que je pense qu'au niveau business, on n'avait pas le choix. Mais c'est sûr qu'il va falloir s'habituer. C'est laid, là. En plus que c'est vert. Je pense que c'est ça qui est le pire.
Mais moi, par exemple, j'ai vu que... Je me souviens plus c'est qui a mentionné sur Twitter, puis je trouvais ça quand même pertinent. Pourquoi qu'ils l'ont pas mis, mettons, sur la culotte? Tu sais, en avant, t'as genre, mettons, le logo de la marque, soit Warriors SCM, mais tu sais, au bord, t'as rien. Il me semble que là, ça aurait été moins épais, puis c'est aussi visible que sur le chandail. Tu sais, pour vrai, moi, que ce soit juste un petit carré ici, ça me dérange pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, oui, c'est plate, mais comme tu as dit, on est rendu là, il faut faire de l'argent, surtout en plus avec les deux années de COVID, ça n'a pas trop aidé pour certains clubs. Est-ce que Montréal avait vraiment de besoin? Possiblement pas, mais tu sais, c'est un mouvement qui a été emboîté par toute la Ligue, là, à part les Oilers, comme tu as mentionné. Mais tu sais, c'est pas juste le CH, c'est vraiment tout le monde qui a embarqué pratiquement là-dedans.
Ah, t'as une équipe sur 32.
T'sais, sur le casque aussi, c'est bien correct. T'en mets un sur le casque, un sur le pantalon. Tu touches pas au chandail. Moi, honnêtement, je comprends pas pourquoi.
La raison est simple. Puis le journaliste en question, je l'ai vu moi avec, puis c'est vrai que ça serait facile si tu peux pas vendre le logo. Qui va acheter des culottes de joueurs comme logo? Avec un logo, personne. Donc, si on voulait faire de l'argent, c'est impossible de rentrer dans son argent sur ses dépenses en vendant des chandails avec logo. On a dit qu'on n'en vendrait pas avec logo. Mais en même temps, l'authenticité, le monde veut les chandails authentiques. C'est sûr que d'ici un an ou deux, on vend des chandails avec le RBC tag dessus. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'on a mis ce chandail. Mais t'as raison, ça aurait été plus beau sur les culottes. Ça aurait été surtout moins contraignant, moins flappy à l'œil. Parce que là, on le voit pas mal plus, vu que c'est en haut à droite. À ma droite, effectivement. Donc, oui, je suis d'accord. Puis je l'ai vu passer, mais je pense que la raison première est là, c'est qu'on ne pourra pas vendre ce chandail. On ne pourra pas vendre des culottes au monde. On vend des chandails Ligue nationale. Mais écoute, les puristes resteront toujours les puristes, puis c'est comme ça. La NFL a été la même chose avec les coups à la tête, avec les règlements qu'ils font année après année. Je pense qu'on est rendu là, puis on a besoin d'argent. Tu sais, la masse salariale, c'est pour augmenter à 100 millions d'ici 2 ans. Je sais pas si vous savez, mais il est à 81,5 présentement. Là. C'est 18,5 millions de plus.
Mais je pense qu'elle monte à 82,5 pour la prochaine saison. Fait qu'on, ouais. On vient de sur 1 million.
Oui, puis après ça, ils veulent monter ça 2025 à 100 millions. Il y a beaucoup de monde qui en parle. Les nationales en parlent. C'est un nouveau pack que Gary Bettman veut signer. Puis d'ailleurs, Bettman va re-signer un nouveau pack en 2026-2027. Donc, c'est pas fait encore. Là. Si on veut engendrer des revenus dans la Ligue nationale, on n'a pas les codes d'écoute qu'on veut. On n'est pas le sport le plus populaire aux États-Unis. Donc, il fallait absolument trouver des façons de faire de l'argent. Puis malheureusement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez que les amphithéâtres, on veut tout rénover les amphithéâtres, on veut des amphithéâtres flambant neuf de 400-500 à 1 milliard, mais il faut mettre de l'argent dedans, on n'a pas le choix. Là.
Écoute, dossier à suivre, on va voir dans les prochaines années si ça va virer comme les maillots européens ou ce qu'on voit pratiquement plus le logo de l'équipe, mais plus juste les logos des publicités un peu partout. J'espère qu'on prendra pas de Montréal. Puis honnêtement, que le tag soit sur le chandail ou sur la culotte, c'est pas vrai que je vais dépenser 300$ pour un chandail authentique, même si le logo est là ou pas. Fait que c'est pas l'ajout de ce logo-là qui va changer quelque chose dans ma vie, mais je comprends qu'il y en a qui veulent tellement avoir le chandail de l'année avec le petit logo RDC dessus.
C'est moi, mais... je suis dans la ville, là, puis quand je parle du Canadien à ma job, là, ils veulent l'authentique. Là. C'est assez impressionnant. Là.
Mais bon.
Je suis clairement pas oublier, on n'en parle pas, mais Ligue américaine, là, le Rocket avait passé avec quand même le logo de Saint-Hubert direct sur leur chandail, puis personne n'en a parlé, là.
Ouais, mais
oui.
C'est Rocket, c'est pas
le Canadien. Je sais, mais ça reste que, tu sais, ça se fait ailleurs, là. Fait que, oh, oui, je suis d'accord, c'est un emblème, mais là, moi, me faire dire que c'est l'emblème des Québécois, là, là, chez moi, c'est une équipe de hockey, là, on peut-tu calmer une heure, là, si l'emblème de ta vie, c'est le Canadien, là, faut que tu fasses d'autres affaires, là. Mais je comprends que ça reste de la coutume, je comprends que ça reste l'équipe de Montréal, des Québécois, ça c'est pas de problème, mais ça reste une business. Il faut comprendre que c'est une business. Autant que les joueurs sont des business, on le voit là, dans les repêchages, puis on le voit aussi dans plein affaire pour les échanges. Les gens qui s'en foutent veulent juste faire du cash. Regardez le prochain contrat de notre cher ami avec l'Avalanche, le mec de McKinnon qui s'en vient. Là. Lui qui a dit, puis on diffume un peu, mais lui qui a dit après la saison, j'ai gagné la Coupe Stanley, là. Maintenant je veux la joueur le plus payé, c'est la Ligue nationale. Fait que. Qu'est-ce qu'il avait dit il y a deux ans, en 2020, en disant que moi, je veux gagner, fait que je vais changer mon salaire pour gagner, là, ça vient de prendre la beurre. Donc, c'est ça. Fait que le hockey, c'est une business, faut pas oublier ça.
Effectivement, donc dossier à suivre de ce côté-là. Écoute, Stéphane, pas trop rouillé pour le retour.
Ah, tout.
Ça a bien été. Mais parfait.
C'est pas la grosse division. Attends, mais qu'on parle Atlantique, là, puis on parle des divisions Ouest, là. Ça va être plus pompé un peu.
Écoute, la semaine prochaine, ben, vous aurez deviné, on va terminer du côté de l'Ouest avec la division centrale. Je pense qu'il va y avoir quelques petits débats de ce côté-là. Quand même, plusieurs équipes qui ont fait des ajouts dans cette division-là, donc ça devrait être assez intéressant. Donc, pour ne pas manquer ça, eh bien, juste revenez nous voir la semaine prochaine.
Les Coyotes en premier.
Possiblement pas le vendredi, par contre, mais on va faire ça dans la semaine prochaine là, pour la division centrale.
Go, Coyotes, go! Go, Coyotes, go!
Non.
5 000 partisans.
Hey, j'ai hâte de voir s'ils vont être soldats une fois au moins eux autres cette année.
Sacrifice. Pauvres eux autres, ça n'a pas de bon sens.
Bon, écoute Stéphane, on va se laisser là-dessus. On va laisser les gens méditer là-dessus, voir. Pensez à ça, là, si les Coyotes vont réussir à être soldats au moins une fois cette année. Ouais. Les paris over-under là, pour.
Ouais, puis n'oubliez pas de taguer sur votre. Ce serait quoi votre classement, vous autres, de 1 à 8 du côté de la Pacifique? Ça serait le fun de vous lire soit sur le Facebook, mais qu'on fasse nos shares, ou même sur le podcast directement là, sur YouTube. Là, chez nous, c'est quoi vos prédictions? Voir si on est dans le champ, nous autres.
Yes, fait que droppez ça en commentaire, puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine avec la division centrale du gros stock qui s'en vient.
Yes, sir.
À plus.
Salut.